Mais d'abord, c'est M. Lavoie qui s'en vient nous rejoindre.
Salut Bernard, ça va?
Ben oui, ça va, ça va. Tu veux qu'on parle du Mexique un petit peu, toi?
Oui, c'est parce que je trouve ça intéressant. D'abord, toi, tu as vécu au Mexique, moi en Espagne. On a vu ça de deux points de vue différents.
Oui.
Mais tu sais sans doute que c'est la journée nationale de l'Espagne qui est en fait la journée, El Día de Colón, le jour de Christophe Colomb. Alors qu'au Mexique, c'est autre chose. On parle plutôt des excuses. C'est pour ça que j'ai dit... Le Mexique s'est-il inspiré de Justin Trudeau? Alors voilà, les autorités, on parle maintenant de résistance indigène. Et la statue de l'amiral Colomb a été retirée il y a un an de la place qui porte son nom. Ça va être remplacé, la statue, par celle d'une femme indigène olmèque, qui a annoncé le maire de Mexico. Il s'agit d'un hommage à 5 siècles de résistance indigène. Alors moi, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'ai été en Espagne, j'étais commissaire général du Canada à l'Expo 92. Alors, il y avait des pavillons de tous ces pays latino-américains. Et moi, j'avais des Espagnols qui travaillaient dans notre pavillon.
Oui.
Et là, je regardais d'abord une sorte de mépris pour tout ce qui venait de l'Amérique latine. Même que c'était un mépris hiérarchisé. D'abord, ceux qu'on n'aimait pas, mais pas en tout, c'était les Argentins, parce qu'on disait c'est des arrogants. Puis là, quand t'arrivais en bas de la liste, là, tu tombais juste avant la Bolivie, tout ça, t'avais le Mexique. Puis le Mexique, ça a toujours été un mystère, cette affaire-là. C'est-à-dire, toi qui as vécu là, tu vas pouvoir peut-être nous en dire davantage, mais fin des années 90, le roi Juan Carlos d'Espagne, qui était encore à son apogée depuis, ça a mal tourné, là, avait fait une visite officielle à Mexico. Et on s'attendait à ce que ce soit relativement calme et tout. Il y avait des foules de joie. C'est ça que j'ai pas compris, là. C'est quoi, Bernard, le pourcentage d'indigènes par rapport aux Blancs au Mexique? Est-ce qu'ils sont maintenant mixtes?
Moi, je te dirais, là, écoute, j'ai pas consulté les statistiques, là, Luc, là, mais moi, je te dirais, la vaste majorité de la population mexicaine est métissée d'une façon ou d'une autre, là.
Ouais,
je te dirais, les Mexicains, là, qui sont de type caucasien, on va dire, là, qui sont des descendants des Espagnols, là, qui ont conquis le Mexique, là, puis qui ont conquis, évidemment, l'ensemble de l'Amérique latine avec le Portugal. Mais je te dirais que la proportion, et là, je te dis ça vraiment à vue de nez, là, lancez-moi pas des roches, je suis à côté de la plaque, mais je vous dirais que c'est une petite minorité, Luc, qui a pas été, mélangée, là, qui a pas dans sa lignée, dans ses descendants, des personnes, mettons, issues des rangs aztèques, là, issues des populations aztèques, là, qui vivaient, là, au Mexique.
Aztèques et ceux qui étaient au Yucatan,
c'était les Mayas.
Les Mayas
étaient au sud,
voilà.
Donc le Yucatan s'en allant vers le Guatemala. Alors, je te dirais moins de 10%. Moins de 10%,
mais les trouve dans des postes de commande.
C'est ce que j'allais dire. Ce 10%-là, on les retrouve souvent parmi la classe dirigeante. Alors, la classe d'affaires, la classe politique, souvent on les retrouve parmi l'élite mexicaine, encore aujourd'hui.
Alors, et en cette année d'anniversaire, là, leur anniversaire à eux, disons que on exige que l'Espagne, le gouvernement mexicain exige que l'Espagne et le Vatican demandent pardon pour les brutalités envers les peuples autochtones. Et voilà, c'était
conquête du Mexique. C'est ça, ce sont les 500 ans de la conquête du Mexique en 1521. Oui, voilà.
Alors, à l'heure actuelle, le pape a répondu à ça en reconnaissant des péchés au Mexique. On est loin des péchés, là, ça a été d'une sauvagerie incroyable l'arrivée des conquistadors espagnols.
Alors, ils n'ont pas fait de quartier, là.
C'était un génocide,
Tu retrouves des tombes, des fosses communes là parfois là quand ils font des fouilles archéologiques là, je veux dire c'est pas chic là, c'est des corps pêle-mêle puis beaucoup de corps là, beaucoup de squelettes là.
Et quand tu promènes en Amérique latine, tu retrouves toutes sortes de traces de ça là, de ces conquistadors puis tout ce que ça a amené comme culture, comme changement culturel, comme écoute, c'est un pays où on a détruit la civilisation. On a pratiquement réduit en cendres la majorité du peuple. Et là, aujourd'hui, ben, le peuple demande pardon. Voilà.
Oui, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est toujours le même débat, Luc. Est-ce que tu effaces l'histoire pour redresser les torts, ou est-ce que tu préserves l'histoire, mais tu ajoutes des chapitres à l'histoire pour la mettre dans son contexte, puis pour parler justement de ces pages obscures et de ces victimes dont on a ignoré l'existence.
Moi, je suis à la deuxième option.
Moi aussi.
C'est ces affaires de déboulonner des statues puis les remplacer par d'autres. Puis tout ça, je trouve que c'est une grave, grave erreur. Je dirais même que dans une vingtaine d'années,
on va le regretter.
Quand la mode sera passée, ils vont recommencer à sortir les statues. Voyons donc.
Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont être détruites rendues là.
Il y en a beaucoup qui vont être détruites, mais il y en a beaucoup qui vont être entreposées un peu partout.
On l'espère. Vas-y.
Boris Johnson, il goûte pas mal fort. Il y a un comité parlementaire qui a dit, et qui portait sur la pandémie, en attendant une enquête officielle, genre d'enquête publique qu'on fait ici au Canada, mais dans un an. Alors là, ils ont dit, ce comité parlementaire, que parmi les pires erreurs de santé publique d'Angleterre, c'est l'échec du gouvernement britannique à imposer un confinement dès le début. Je veux dire, c'est wow.
Mais tu te rappelles, au début, Johnson, il avait branlé dans le manche. C'est lui qui avait parlé.
C'était un fanfaron, Bernard. Il faisait le fanfaron pendant que déjà on commençait à faire des mesures de distanciation. Il allait dans des foules, puis il leur donnait la main en leur montrant, hey, j'ai pas peur de te prendre la main, tout ça.
Non, il parlait de herd immunity. Tu te rappelles?
Herd immunity. Ça va arriver, tout bonnement.
Puis quand est-ce qu'il a allumé le bonhomme? C'est quand il l'a attrapé, puis il a failli y passer.
C'est vrai. C'est-à-dire que c'est là qu'il a mis le plus d'efforts, mais avant ça, il avait quand même, à la fin mars, accepté un début de confinement. Et puis, ça a niaisé. Puis là, effectivement, lui, le Boris Johnson, tu t'en souviens, Bernard, non seulement il a attrapé la COVID, mais il a lui-même admis qu'il est passé un cheveu de la mort.
Ben oui, c'est ça.
Il a passé 3 ou 4 mois aux soins intensifs, et ça lui a pris beaucoup de temps à s'en remettre. Pour dire le vrai, il y en a qui disent qu'il s'en est jamais remis complètement, qu'il n'a plus la même énergie. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il s'est réveillé. Mais il était très, très tard.
Oui.
Souvenons-nous que le Royaume-Uni a enregistré plus de 137 000 décès. C'est le bilan le plus élevé d'Europe après la Russie. Alors, c'est pas drôle, mais là où il a voulu se racheter, c'est qu'il a pris le pari qu'on aurait un vaccin le plus tôt possible. Ils ont investi des milliards avec l'université Oxford et AstraZeneca. Et ce vaccin-là a été administré à pratiquement, qu'est-ce qu'on dit, 80 % des personnes de 12 ans et plus qui sont complètement vaccinées. Néanmoins, Johnson sort de là assez ébranlé, merci, parce que une fois qu'il a mis les confinements en place, là, il se faisait de la pression lui-même en se disant, écoute, peut-être qu'on pourrait éliminer telle mesure, ou on pourrait peut-être éliminer tel autre. Puis à force de jouer ce jeu-là, les gens sont devenus, ils ont dit, écoute, on n'est pas des yo-yos, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et Johnson, écoute, ce gars-là avait été élu pour réaliser le Brexit. Il est en train de le réussir, de le mettre en place, le Brexit. Il y a des pénuries de nourriture, il y a des pénuries d'essence, il y a des pénuries de produits essentiels en général, parce que le Brexit signifiait la fermeture des frontières de l'Europe. Ça va se régler un jour, mais
J'allais dire, on va espérer que ces pénuries vont se régler pour... En tout cas, on va espérer pour lui que ça se règle avant les élections, parce que si c'est pas réglé pour les élections, il va être dans dans le trouble. Mais il a été élu, il y a quoi? Il y a un an et demi à vue d'œil, à peu près?
Un an, je pense.
Bon, fait qu'il y a encore... Moi, d'après moi, Luc, la prochaine année va être difficile pour nos amis les Brits, mais ça va finir par s'aplanir.
À la longue, tout finit par s'aplanir, mais vraiment, eux autres, il n'était pas nécessaire d'aller aussi, tu sais, d'être aussi, comment dire, irresponsable dans ses décisions, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Puis là, une bonne nouvelle, Bernard.
Les Québécois
doublement vaccinés avec l'AstraZeneca pourront finalement, j'ajouterais, enfin, entrer aux États-Unis dès le mois prochain, alors que le pays a modifié ses règles sur le voyage. Donc, le 1er novembre, votre passeport vaccinal ou le document qu'on vous demande va considérer qu'AstraZeneca est un vaccin acceptable. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de Québécois et peut-être des centaines de milliers de Canadiens qui ont opté pour ça. Bon, ils n'ont pas opté pour ça. Ils ont pris ce qui était disponible.
Ben oui, rappelle-toi.
AstraZeneca.
Ben oui. Mais moi, c'est ce que j'ai, 2 AstraZeneca.
Moi aussi, j'ai 2 AstraZeneca.
Oui, oui.
Puis,
on est content.
On est fort, oui, comprends-tu?
Ben oui,
comme,
hein? Ben oui, c'est sûr. Ben oui, on est fort. Certain qu'on est fort.
Bon, alors qu'est-ce que tu penses d'un peu de l'espionnage au beurre de peanut, maman?
Ben moi, j'adore le beurre de peanut.
Comment tu m'avais dit que tu appelais ça des peanuts? Tu faisais des grilled cheese?
Des grilled peanuts.
Ah, des grilled peanuts!
Au lieu de faire des grilled cheese, tu fais des grilled peanuts. Voyons, tu mets du beurre d'arachide dans deux tranches de pain, tu mets un petit peu de beurre ou de margarine sur ta tranche, tu mets ça dans ta poêlonne, puis tu chauffes ça et tu grilles ça, là.
Toi, fils de cultivateur, tu devrais avoir honte de parler de margarine. On parle pas de ça.
Ben c'est parce qu'il y a un paquet de gens qui nous écoutent qui prennent de la margarine. Ah. Nous autres, chez nous, c'est les deux. On prend les deux. Je sais là qu'il y a des producteurs laitiers qui me disent « Ah, trahison, trahison, comment oses-tu? » Ben là, tu sais, à un moment donné. Alors, des grilles de pinottes, c'est très bon. C'est excellent, des grilles de pinottes. J'invite tous nos auditeurs à essayer des grilles de pinottes. Mais pourquoi tu me parles de grilles de pinottes?
Ben parce que Jonathan Tobey, un ingénieur de la marine américaine, et sa femme Diana ont été arrêtés samedi. Ils étaient en train d'essayer de monnayer des renseignements ultra secrets concernant le design des sous-marins nucléaires américains. Alors, ça donne une drôle de situation. Et bon, ils ont été arrêtés. Attends une minute, je vais ici.
C'est parce que là,
juin dernier, Tobey et sa femme.
Faut que tu reviennes au grill de pinottes.
C'est ça. Tobey et sa femme se sont rendus en Virginie-Occidentale, où il avait convenu que la transaction serait réalisée. Il essayait de vendre ses bébelles à des puissances étrangères. Monsieur Tobey aurait caché une carte SD. Ça, je pense, c'est comment on appelle, c'est pas nos clés USB, c'est une carte SD. En tout cas, une carte mémoire.
Oui. Hein?
Il aurait caché une carte mémoire à l'intérieur d'un sandwich au beurre d'arachide.
Oh boy! Ah non, ça, c'est pas une bonne idée. Si tu veux faire un grill de peanut avec une carte mémoire, ça goûtera pas bon, là. Je te le dis tout de suite.
Non, mais c'est pas tout. Une autre transaction, celle-là.
Oui.
Ils avaient dissimulé dans un paquet de gomme à mâcher. C'est de la bazooka qui fait des grosses ballons, là.
Ben là, avec les plans d'un sous-marin nucléaire, ça fait boum!
Boum! Alors, bon. L'espionnage au beurre de peanut, Bernard, voilà au programme.
Oui.
Tu t'installes avec un grill peanut, puis tu lis ça.
Oui, on peut faire ça. Merci. J'ai des meilleures lectures à te proposer.
Merci, Bernard. Hein?
Surtout, j'aurais pas le FBI sur mon cas si je m'en tiens à mes propres lectures. Alors, Luc, on se reparle un peu plus tard parce qu'on va se parler de la Chine. Quand on parle de la Chine, on aime ça que tu sois autour de la table. OK?
Je serai là.
C'est bon, mon gars. On s'en va à la pause. Au retour, les Beatles. C'est quoi le fondement de l'affaire? Il y a toutes sortes de thèses qui existent, là, sur la séparation des Beatles. Mais là, McCartney a rajouté, là, une couche en disant, dans le fond, là, parce qu'il y en a qui ont dit à un moment donné, c'est McCartney qui était le vrai responsable de l'explosion du groupe. Mais là, McCartney dit, non, c'est pas moi, c'est John Lennon. Alors, on va essayer de départager ça avec Sylvain Ménard après la pause.